Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Avant tout, je suis très honorée d'être ici devant vous aujourd'hui pour vous présenter une conférence sur comment les conditions d'apprentissage et de vie scolaire peuvent-elles influencer l'estime de soi des enfants. Je suis d'autant plus heureuse d'être là que je vais participer et que je participe à ces conférences entourée de collègues qui me sont chers. Alors, pour répondre à cette question de comment les conditions d'apprentissage et de vie scolaire peuvent-elles influencer l'estime de soi des élèves, on peut la comprendre de deux façons, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut expliquer que les conditions d'apprentissage peuvent jouer sur l'estime de soi, et on peut les comprendre aussi sur comment faire pour créer des situations qui favorisent l'estime de soi et les apprentissages. Je vais essayer du coup, peut-être par un chemin détourné au départ, de répondre, modestement bien sûr, à ces deux questions. En classe, donc, on va, comme l'a dit mes collègues, s'intéresser davantage au domaine scolaire, mais vous allez voir que ça peut largement être appliqué à d'autres domaines. En classe, les enseignants ont à gérer des apprentissages, bon, mais aussi des comportements. Ces comportements sont importants, ils sont dans les textes, hein, puisque c'est inscrit au socle commun des compétences, et puis c'est inscrit également dans le programme de l'école élémentaire. Dès le programme de l'école élémentaire, il est marqué qu'il faut apprendre ensemble et vivre ensemble. Donc être avec les autres semble important. Vous le savez si vous êtes enseignant, certains comportements peuvent poser des problèmes en classe. Alors, il y a des petits problèmes de comportement qui nécessitent seulement la convocation des parents pour expliquer qu'il faut remettre un petit peu les choses en ordre. Quelques remarques sur les bulletins, les bavardages des uns, de la dissipation des autres. Mais dans certains cas, des comportements sont beaucoup plus problématiques et posent vraiment de réels problèmes aux enseignants qui se sentent, m'ont-ils dit pour certains, démunis face à la gestion des comportements. Quand on a des problèmes d'apprentissage, français, mathématiques, histoire, etc., on peut se référer à différents manuels pour essayer, par un biais ou par un autre, de résoudre les problèmes des enfants. Le problème du comportement est tout autre. Et gérer les comportements, c'est difficile. Alors, les temps de récréation peuvent permettre aux enseignants d'échanger les uns entre les autres pour essayer de trouver des solutions à des problèmes de violence, d'agressivité. Comment gérer l'agressivité des uns, comment gérer l'isolement ou la solitude des autres, le mal-être des élèves. Bien sûr, répondre à ces questions est fondamental. Alors, pour les enseignants, c'est évident, pour qu'ils essaient de sortir de certaines situations difficiles. Bien sûr, si l'on regarde les instructions officielles, puisqu'il est important d'apprendre à vivre ensemble, mais pas seulement. Il s'avère que être bien avec les autres, bien se comporter avec les autres, est fondamental pour l'enfant. Cela fait référence à une notion qui m'est chère, j'allais dire, qui est la notion de compétence sociale. On parle beaucoup des compétences, de l'intelligence. Il me semble qu'on ne passe pas assez de temps à parler des compétences sociales, qui nous servent pourtant tout au long de la vie et qui s'adaptent et qui s'adoptent, quelles que soient les relations avec les autres. Pour être compétent socialement, on nous dit que c'est être capable d'accomplir certaines tâches sociales. Ça veut dire entrer en communication avec l'autre, ça veut dire lui demander de l'aide, ça veut dire savoir interagir dans un groupe, etc. Ça peut être créer ou maintenir un environnement social positif, c'est-à-dire savoir gérer un conflit, être capable de résoudre un problème entre deux personnes, bref. Ça peut être aussi agir de manière appropriée dans ses relations interpersonnelles en fonction du rôle qu'on occupe. Bien évidemment, un élève, par exemple, doit apprendre à ne pas s'adresser à l'enseignant comme il peut s'adresser à ses frères et sœurs, à ses camarades ou encore à ses parents. Plus généralement, un auteur nous dit que c'est être accepté par les autres. En classe, concrètement, les compétences sociales peuvent être considérées comme des comportements prosociaux et des comportements à responsabilité sociale, de responsabilité sociale. Les comportements prosociaux, c'est un vocabulaire surtout qui nous vient de la langue anglaise, on a plutôt tendance à parler de comportements antisociaux, hein, c'est-à-dire de prendre l'inverse en français, quoique antisocial, ça renvoie à plutôt certains groupes de rock qu'il y a quelques années. Donc voilà, le comportement prosocial, c'est plutôt pour les anglo-saxons le don de soi, faire le don de quelque chose. Et les comportements de responsabilité sociale sont des comportements qui consistent à respecter des règles. Concrètement, c'est faire le métier d'élève, faire son métier d'élève, se comporter comme il est attendu qu'un élève se comporte. Partager, coopérer, aider, respecter les règles, lever la main, apprendre ses leçons, respecter les autres, se respecter, apprendre, participer, etc. La question, c'est à quoi servent ces compétences sociales ? Elles ne sont pas anodines, je vous le disais, puisqu'en fait, elles entretiennent un lien étroit, très étroit, avec le bien-être de l'enfant, sa motivation et ses apprentissages. Comment se peut-il que bien se comporter avec les autres ait un lien avec les apprentissages de l'enfant ? Il y aurait, selon différents chercheurs, deux raisons principales, des raisons dites émotionnelles et des raisons très liées qui sont dites motivationnelles. Un enfant qui ne sait pas se faire accepter par les autres. J'ai dit qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne veut pas, mais en tout cas, peut-être qu'il ne sait pas se faire accepter par les autres, qui est systématiquement le bouc émissaire des uns ou des autres, qui est source de moquerie. Systématiquement, quand il prend la parole, on se moque de lui. On lui promet systématiquement de lui faire la peau à la récréation. Comment peut-il être concentré sur ses apprentissages s'il n'est pas dans un confort socio-émotionnel ? Comment peut-il écouter en souriant la maîtresse alors que les autres se moquent de lui ? A-t-il seulement envie de venir en classe ? Trouve-t-il de l'intérêt ? Pourquoi faire plaisir à l'enseignante, aux autres, en s'investissant dans une tâche, alors que les autres, enseignantes ou camarades, semblent ne pas l'aimer ? On peut se dire, si le comportement de l'élève, donc c'est mon petit carré ici, si le comportement de l'élève avec les autres agit sur ses apprentissages, on peut se dire, bah alors, que peut-on faire pour agir sur son comportement ? En agissant sur son comportement, ça agirait de manière indirecte sur ses apprentissages. Au même titre qu'en médecine, le médecin vous demande des symptômes et essaye de choisir les causes ou de trouver les causes, et on soigne les causes, le symptôme peut disparaître, on peut se dire, là c'est pareil. On regarde quels sont les antécédents ou les causes possibles du comportement que l'enfant adopte avec les autres, on agit dessus et du coup, on agit sur ses apprentissages. Une recherche qui a été menée sur cela montre que finalement, le comportement que l'enfant adopte avec les autres vient des efforts qu'il a envie de faire avec les autres, de sa motivation et qu'on pourrait qualifier de motivation sociale. J'ai envie de faire des efforts avec les autres. Donc je fais des efforts avec les autres et donc j'apprends mieux. Je n'ai pas envie de faire des efforts, je ne me comporte pas bien avec les autres et du coup ça peut nuire à mes apprentissages. Bien, je n'ai pas beaucoup avancé dans ma réflexion puisque finalement je me pose encore la même question. Bon, eh bien qu'est-ce qu'il peut venir en amont de la motivation ? Quelque chose sur lequel on aurait prise. Vous suivez mon raisonnement ? Oui ? Oui, on a hâte. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce point d'interrogation? Bon, vous n'aurez pas la réponse. Si. On peut se poser la question, et qui est dans le titre de cette intervention, la question de l'estime de soi. On parle beaucoup d'estime de soi, de confiance en soi, de représentation de soi, de perception de soi, etc. Il me semble important de dire ce dont il s'agit. L'estime de soi, alors, il y a nous, le soi. On a des connaissances sur nous-mêmes, des connaissances qui restent. À quelle date on est né, quelles sont nos origines, est-ce qu'on est un homme, est-ce qu'on est une femme, dans quel pays nous vivons, quelle est notre profession. Ça, ce sont des choses, des connaissances sur nous-mêmes, qui bougent un peu dans le temps, mais qui sont relativement fixes. C'est une composante cognitive de soi. Il y a une composante affective de soi, à laquelle, ou du moins, Nicolas Margas, notre collègue de STAPS, dirait que cette composante affective est très liée à l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'évaluation que l'on fait de nous-mêmes. Évaluation positive ou négative. Alicia Lamia nous dit « L'estime de soi correspond à l'ensemble d'attitudes et d'opinions que le sujet se fait de lui-même à partir des expériences qu'il a vécues dès son enfance et par rapport aux personnes qui ont joué un rôle important dans sa vie. » Je continue. William James, début du XXe siècle, nous dit « L'estime de soi pourrait être considérée comme un rapport entre ce que je suis et ce que je voudrais être. Je suis ici et je voudrais être tout là-haut. Mon estime de moi, du coup, n'est pas très bonne. Plus je me rapproche de ce que je veux être, à condition que le curseur d'en haut ne se modifie pas, et plus mon estime de moi est forte. » Susan Arthur, qui travaille beaucoup sur William James, nous explique qu'il ne faut pas faire de confusion entre confiance en soi et estime de soi. La confiance en soi, c'est à quel point j'anticipe les succès que je peux avoir plus tard. Ce qui n'est pas du tout diagnostique, ça peut être lié, mais qui n'est pas du tout diagnostique de l'estime de soi. Je prends un exemple. Il y a différents domaines dans la vie qui ne vous intéressent pas. Je prends l'exemple du dessin. Ce n'est pas un domaine qui m'est particulièrement cher et on me dit que je vais participer à un concours de dessin. Allons-y. Si j'échoue, est-ce que ça va miner mon estime de moi-même? Non. Par contre, si c'est un domaine qui est très important pour moi, l'échec, là, peut miner mon estime de moi-même. L'estime de soi est vraiment en lien avec l'acceptation de soi, le respect que l'on a de soi-même, l'amour que l'on se porte. Est-ce que je me pense comme quelqu'un de bien? Ça ne veut pas dire est-ce que je suis quelqu'un de bien. Est-ce que je me pense comme quelqu'un de bien? Si l'on va plus en détail de l'estime de soi pour mieux comprendre comment on agit ou comment on peut agir, on se rend compte que les auteurs présentent des estimes de soi spécifiques et l'estime de soi globale. L'estime de soi globale, c'est est-ce que globalement on est quelqu'un de bien ou pas. Et il y aurait des estimes de soi spécifiques. Est-ce que l'on est quelqu'un de bien dans nos relations sociales, dans nos relations amoureuses, dans notre travail, etc., etc. Il y aurait plusieurs petits domaines qui pourraient concourir, bien évidemment, à générer une estime de soi globale différente et l'estime de soi globale jouée sur les domaines spécifiques. On nous dit que c'est pas avant 8 ans, Susan Arthur explique que c'est pas avant 8 ans, que les enfants peuvent avoir une estime globale d'eux-mêmes. Avant cela, ils s'évaluent de manière positive et un peu surréaliste. C'est eux qui courent le plus vite, c'est eux les champions en foot, c'est eux, etc. À partir du moment où on arrive à l'école, avec des apprentissages, je parle des apprentissages plus disciplinaires, c'est-à-dire au moment où on a plus de comparaisons les uns avec les autres, c'est-à-dire presque à l'entrée du cycle 2, que finalement, l'enfant va comprendre, par rapport à ce qui est dit des uns sur les autres, qu'il est peut-être pas si champion que ça dans le domaine du sport, qu'il court peut-être pas forcément aussi vite que cela. Et ça commence, cette comparaison-là, à jouer sur l'estime qu'il a de lui-même. Les évaluations sur soi deviennent peut-être plus objectives, peut-être plus réalistes. Il prend conscience de ses réelles capacités. Il prend surtout conscience qu'on attend de lui, c'est-à-dire que les soins spécifiques, l'estime de soi spécifique va se mettre en place, qu'on attend de lui différentes choses dans différents domaines. L'enseignante attend de lui qu'il soit un bon élève. Un bon élève d'un point de vue des matières, mais aussi un bon élève d'un point de vue du comportement. Il sait que ses parents s'attendent à ce qu'il soit grand, qu'il se comporte comme un grand, qu'il soit un bon enfant. Là viennent à ce moment-là de multifacettes dans l'estime de soi. Différentes questions se posent. D'où vient cette estime de soi? L'estime de soi, nous dit Guédenet en 2011, viendrait au tout début de l'interaction que les enfants ont avec les autres et notamment avec leurs parents. Cet auteur développe la théorie de l'attachement de Bowlby, que vous connaissez sans doute, et explique que si l'enfant, en étant tout petit, a eu des réponses appropriées à ses demandes, alors son estime de lui-même a pu commencer là. Non seulement il a pu se rendre compte que les autres, notamment ses parents, étaient dignes de confiance, puisqu'ils ont pu répondre à ses demandes, et lui peut avoir confiance en ses comportements, puisque quand il demandait quelque chose, par ses pleurs, par ses cris, etc., on lui apportait ce dont il avait besoin. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette estime de soi est stable? C'est-à-dire, si on commence à avoir une estime de nous-mêmes négative, est-ce qu'on va la porter sur notre dos jusqu'à la fin de nos jours? Alors, si l'on en croit la définition, ou du moins ce que Guédenet nous développe, si l'on se dit « ça vient de nos parents », bon, bah, à l'âge adulte, on ne peut rien faire sur la façon dont nos parents se sont comportés avec nous. Donc, c'est stable. Oui, mais pas tant. Et tant mieux, j'allais dire. Puisque, comme elle se construit en fonction des expériences passées, en fonction de ce que l'on vit et des personnes qui sont importantes, on imagine à un moment ou à un autre qu'en reproposant des expériences positives, si l'on se constitue comme une personne importante pour l'autre, on peut modifier son estime de lui-même. Delphine Martineau explique que finalement l'estime de soi aurait un noyau dur, un peu comme un fruit, avec un noyau qui est quand même assez dur à casser, et puis des choses qui peuvent fluctuer quand même. Et quelque part, ça m'arrange notamment aussi pour mon propos. Si on creuse désormais ce qu'est l'estime de soi, alors là, je vous dis, l'estime de soi, c'est important pour la motivation de l'élève, c'est important pour son comportement. D'accord. L'estime de soi, c'est l'image qu'il a de lui-même. D'accord, mais concrètement, il y a quoi dans cette estime de soi? On sait que ça fait partie d'un processus. D'accord? Que la perception qu'on a de nous-mêmes joue sur notre motivation, qui joue sur nos actions, que l'autre va y réagir, et que ça joue à nouveau sur notre perception. Bon, ça, on sait. Qui est le début de la boucle? Ça. Est-ce que ce sont nos actions qui déterminent le feedback des autres, que ça joue sur la perception, etc.? C'est un petit peu la question de la poule et de l'œuf. Et comme on n'a pas de réponse de la poule et de l'œuf, on ne sait pas trop. Toujours est-il que certains auteurs, comme Connell et Wellborn, nous expliquent que la perception que l'on a de nous-mêmes vient de trois besoins psychologiques fondamentaux. C'est-à-dire, si l'on se sent compétent, j'ai bien dit si l'on se sent, pas si l'on est, si l'on se sent compétent, si l'on se sent autonome et si l'on se sent soutenu, alors on aurait une perception de nous-mêmes plus favorable, ce qui jouerait sur notre motivation, notre comportement, nos apprentissages. En clair, on aurait ça. Alors là, c'est un peu triché parce que j'ai plus fait la boucle. Mais la boucle y est. Le besoin de compétences. J'ai besoin de sentir que je suis quelqu'un de capable. Surtout si c'est un domaine qui m'intéresse. Que je ne me sente pas capable en dessin, bon, bah, c'est pas très grave. Si je me sens capable dans un domaine, ou si j'ai un domaine qui m'intéresse, alors il est important de me sentir capable de faire les choses. Imaginez, il y a un domaine qui ne vous intéresse pas. Vous ne vous en sentez pas capable. Et puis, ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas grave si vous ne vous en sentez pas compétent. D'accord ? Imaginez, il y a un domaine qui vous intéresse. Mais vous ne vous sentez pas capable dans ce domaine. Deux choses peuvent être expliquées. Est-ce que vous ne vous en sentez pas capable parce que vous ne savez pas faire ou vous ne connaissez pas les stratégies pour y arriver ou parce que les stratégies qui consistent à y arriver vous semblent impossibles? Ce n'est pas du tout la même chose. Si je ne sais pas m'y prendre, bah, je peux peut-être travailler puis j'y arriverai. Par contre, si je sais comment faire, si je connais les stratégies pour y arriver et qu'en plus on me dit que je suis incapable de le faire, là c'est beaucoup plus minant pour l'estime de soi et la motivation qu'il y a derrière. Le besoin d'autonomie. L'autonomie n'est pas considérée comme de l'indépendance. Il ne s'agit pas de savoir faire ses lacets tout seul. C'est plutôt être à l'initiative de ses actes. Pardon, se sentir à l'initiative de ses actes. On le retrouve dans le domaine de la santé. Et il est très parlant dans le domaine de la santé. Une personne qui doit se soigner pour n'avoir plus rien à faire avec l'alcool. Si on lui met la pression en lui disant « Maintenant, il faut que tu te soignes », est-ce que sa thérapie sera aussi efficace que s'il se dit « C'est moi qui vais me soigner, je me prends en charge. » Ça vient de moi. Ce n'est pas du tout la même chose. Laisser des choix, se sentir à l'initiative de ses actes, est important. Et le besoin de soutien, se sentir encouragé, reconnu, est fondamental. Soutenu. Il apparaît dans les travaux sur le soutien que quand il y a notamment... il y a des travaux sur les veuves de guerre qui expliquent que quand elles sont constituées en association, alors à ce moment-là, elles arrivent mieux à surmonter le deuil que lorsqu'elles sont seules. Bon, alors, très bien. Comment peut-on agir ? Il y a toujours du comment hein, dans mes questions. Comment peut-on agir sur les besoins psychologiques fondamentaux ? Comment peut-on faire ? Et ça, c'est valable, quelles que soient les situations, à l'école, certes, mais en tant qu'assistant de service social, en tant que moniteur éducateur, en tant que CPE, en tant que parent, c'est valable. Comment peut-on agir pour que l'enfant, le jeune, se sente compétent, autonome et soutenu ? Connell et Wellborn nous disent, c'est simple, il faut privilégier un environnement structuré, favorisant l'autonomie et soutenant. Bon, merci Monsieur Connell et Wellborn. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, ils vont un peu plus au-delà de ces trois mots en disant structurer, il faut déjà que l'enfant sache ce qui est attendu. Et quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour répondre à ces attentes? Et que c'est une fois les stratégies attendues et le comportement attendu qu'on peut regarder est-ce que ton comportement répond aux stratégies attendues et aux comportements attendus. Prenons l'exemple d'une compétence sociale qui s'appelle la politesse. Combien de fois on entend dans les classes « Tiens-toi correctement, sois poli ». D'accord ? Alors, « Tiens-toi correctement », c'est quoi « Tiens-toi correctement » ? C'est quoi « Sois poli » ? En disant une fois cela à des élèves, à un élève qui était un petit peu avachi sur sa chaise, un élève de SECPA, je dis à cet enfant, tiens-toi correctement, montre-toi poli. Et il me dit, putain, mais je suis poli. Non, t'es pas poli. Putain, mais si. Donc, il peut y avoir un malentendu, vraiment, entre les valeurs et les codes de certains jeunes et nos codes et nos attentes. Proposer un environnement structuré, c'est connaître déjà, c'est qu'ils connaissent au moins nos attentes, mais de manière explicite, et qu'on essaye de les rejoindre sur leurs attentes. C'est pas difficile, à mon sens, de dialoguer en disant, bon, bah, c'est quoi pour vous la politesse, c'est quoi pour nous, bon, ben bah, voilà comment on se comporte, et à partir de là, là, tu te tiens mal. Et se tenir bien, voilà comment on y a réfléchi. Favoriser l'autonomie, c'est laisser des choix, des vrais choix. Il y a un exposé à faire, eh bien, allez, choisissez le thème que vous voulez. Ou donnez l'illusion du choix. On en propose trois. On propose trois thématiques. Soutenir l'élève. Pour connaître les Wellborn, c'est avant tout le connaître. Qui il est? Quelles sont ses passions? S'intéresser à lui. Il rentre le lundi en boitant. Bah, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu boites? S'intéresser à lui, c'est simple. On le fait, généralement. J'espère qu'on le fait. Catherine Wenzel dit, en fait, c'est être un bon enseignant, un bon prof, pour les élèves. Elle a interrogé un certain nombre d'élèves de collège pour leur demander, c'est quoi pour toi un bon prof ? Un bon prof pour les élèves, c'est pas celui qui copine avec eux. C'est pas celui-là. C'est pas celui qui est drôle, qui joue copain-copain, etc. Pas du tout. Un bon prof, c'est celui qui les connaît, qui connaît leur prénom. C'est celui qui discute des problèmes plutôt que d'envoyer directement dans le bureau du directeur. C'est le professeur qui corrige les exercices qu'il a demandé la veille ou l'avant-veille. Qu'il rend des copies. C'est-à-dire, on a donné un exercice, on prend au moins le soin de rendre la correction. Madame, vous n'avez pas corrigé les exercices qu'on vous a rendus? Oui, bah ça, non. Plus tard. Non. Être juste. Sévère, c'est vrai. Avoir des limites, c'est vrai. Pouvoir négocier, c'est vrai. Mais être juste. Dans leur réponse, les enfants disent quand même quelque chose de saisissant. C'est qu'un bon prof, c'est celui qui aime ce qu'il fait. C'est-à-dire qui arrive en montrant quand même qu'il est un minimum passionné pour la discipline qu'il enseigne. Qui sourit. Qui est content d'être là. Ce qui signifie que l'enseignant, lui aussi, quelque part, doit être soutenu, doit être encouragé, doit se sentir autonome, doit se sentir à l'initiative de ses actes, doit se sentir dans un environnement structuré. Oui, dans certains établissements, ce n'est pas forcément le cas. Comment être motivé? La question se pose, comment être motivé, aider l'enfant à se motiver si nous-mêmes, on est cassé dans notre motivation. Pour Archambault et Chouinard, aider l'enfant dans son estime de soi consisterait, et ça rejoint le dispositif de Connell et Wellborn, de proposer un dispositif classe. Classe, pas au sens super fantastique, au sens de l'acronyme classe, C-L-A-S-S-E. Prendre en compte les représentations des élèves, leur accorder une certaine latitude, créer une bonne ambiance. On peut rire aussi hein, en cours, hein, en classe. Créer des situations d'apprentissage où on sait quelles sont les compétences qui sont visées, où ça a du sens pour nous, et où petit à petit, l'enfant sent, ou du moins l'enseignant, propose des paliers. De difficultés, bien sûr. On ne va pas tout de suite à la difficulté suprême. Où on est soutenu, encouragé, aidé, conseillé. Où on informe des progrès. Où on échange sur les points à améliorer. Pas forcément les points à améliorer, pas comparativement aux autres, comparativement à soi. Alors certes, on est dans un système éducatif où il y a des notes, où parfois on change, où on progresse, et où on dit, bah non, on ne fait pas des notes, on va faire des lettres de A à F. Non, on va faire des points de couleur vert, jaune et rouge. Oui, mais ça pousse quand même à comparaison. Hein. Donc, et comparaison peut signifier aussi compétition, et non pas être très informatif. Dans tout cela, et pour aider dans l'estime de soi de l'élève, on a le langage. Le verbal et le non-verbal. Alors le verbal, bien évidemment, par nos mots, on peut encourager. C'est bien. Parfait. Là, tu as progressé. On peut aussi complètement décourager. Hein. Vous avez entendu, hein, peut-être vous avez, dans certaines disciplines scolaires, le professeur ne vous interrogeait même pas ou en disant non, restez à votre place, oulala. Par ces simples mots, c'est du découragement. On peut maintenir un lien grâce au langage, et notamment avec la famille. Certains chercheurs, notamment Kertoy et Poulsen, nous expliquent dans un ouvrage qui est très intéressant, qui s'appelle « L'art et la science de la motivation », ils nous expliquent qu'on peut prendre en compte les émotions, les attentes, les croyances, les ressentis. Il peut parfaitement y avoir un élève ou un étudiant qui dit « Mais non, moi cet exercice, ça va pas du tout, je me sens pas, se mettre en colère, pourquoi pas ?» Laisser la place aux émotions pour qu'après, il y ait une place pour les apprentissages. On peut laisser la place aussi, il y a des comportements qui sont non-verbaux. Secouer la tête, sourire. On peut se monter très gentil avec les mots et très décourageant avec le visage. Hein. On peut lever les yeux au ciel, ça suffit pour miner la motivation de quelqu'un. Écouter. Apprendre à attendre. Quand on est enseignant, et j'ai ce défaut-là, on parle beaucoup. Et le silence est parfois assez anxiogène. On pose une question, il n'y a personne qui répond. Eh bien, tant pis, on attend. Kertoy et Poulsen nous disent « Attendez donc 7 secondes !» Voilà, 7 secondes. On pose une question et on attend 7 secondes. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'autre de réfléchir. Peut-être que lui aussi se sent pas bien dans le silence et qu'il va répondre. Si on répond tout de suite, il n'a pas le temps. S'il nous pose une question, attendons aussi 7 secondes avant de répondre. On le regarde, on attend 7 secondes parce qu'il peut affiner sa réponse. Il peut affiner sa question, il peut même ébaucher une réponse. Kertoy et Poulsen nous disent, essayez donc de faire du 80-20. 80% c'est l'autre qui parle, 20% c'est vous. Hein ? Et il nous rappelle un proverbe anglo-saxon qui dit « Vous avez deux yeux, vous avez deux oreilles et une bouche, utilisez-les dans cet ordre. » enseignant, je me demande si on n'a pas si on fait pas des fois l'inverse. On parle, on fait peut-être un peu tout en même temps. On utilise les mains, on utilise les yeux, on est un peu multifonction. Peut-être qu'on pourrait apprendre juste à écouter, observer, puis parler. Par le langage, on donne des choix. Par le langage, on rassure, on fait preuve d'empathie. J'ai bien compris que tu te sentais en difficulté. On peut montrer les compétences ou les lacunes. Oui, tu n'y es pas arrivé à ce moment-là, mais c'est pas grave, tu n'as peut-être pas utilisé les bonnes stratégies. Augmenter tout doucement les difficultés, il ne m'arriverait pas de vouloir courir un marathon la semaine prochaine et tout de suite commencer par les 42 km. Déjà, je n'ai même pas l'idée, mais vous voyez, on le fait progressivement, on le ferait progressivement. Encourager les questionnements, comment s'y prendre ? Montrer que l'échec est possible et que ce n'est pas grave. Enfin, ils nous disent, faire des louanges pourrait paraître assez sournois. On est tout le temps en train de me complimenter, etc. C'est assez fourbe. Mais finalement, les louanges sont très utiles si elles sont immédiates, directes. C'est très bien ça, c'est très bien comment tu te comportes. Si je dis ça à un enfant, si je dis ça à Benoît, Maxime qui est à côté risque de se dire « Mais comment il se comporte Benoît ? Moi aussi j'ai envie d'avoir une remarque comme ça. » Et par modelage, nous dirait Bandura, il va se mettre à se comporter comme ça. La communication et la satisfaction de ces trois besoins psychologiques fondamentaux sont très importants et ont été étudiés dans différents domaines. À l'école, vous l'avez compris, en famille, bien sûr, puisqu'il y a un lien indirect qui a été établi entre la communication familiale et la délinquance. Dans le domaine de la santé, la façon dont on se comporte avec son patient, ce qu'on lui dit, ce qu'on dit à sa famille, pour encourager ou pas. Dans le domaine du travail, les personnes qui ne se sentent pas soutenues dans le domaine de leur travail peuvent être en grande détresse psychologique. Dans le domaine du sport, certains sportifs de haut niveau abandonnent aussi parce qu'ils ne se sentent pas soutenus par les entraîneurs, etc. Si on peut agir sur l'estime de soi de l'enfant, dans notre échange que l'on a avec lui, par nos paroles, on peut se poser la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser certains dispositifs pédagogiques ? Comment j'organise la classe pour finalement aider les élèves à mieux s'impliquer, à être mieux, tous, peut-être pas un par un, tous, à être mieux et du coup à mieux réussir ? Cette question me semble essentielle, je ne vais pas y répondre. Je suis certaine que vous aurez des réponses très pertinentes en écoutant Céline Buch. Après moi, je vous remercie de votre attention.